Bon matin, Église Le Sentier. Je suis vraiment content d'être avec vous aujourd'hui. Mon nom est Dominique, je suis un des pasteurs ici à l'Église. Donc, je voulais ce matin vous présenter ma nouvelle tuque que j'ai eue vendredi. Je vais la mettre là, mais j'ai comme un certain danger. Si je la mets, peut-être que mes cheveux ne reviendront pas correct après. Mais je veux vous présenter ma nouvelle tuque, OK? Parce que ça, si vous voyez bien, c'est écrit D17, OK? Pour ceux qui ne savent pas, 12-17, c'est le nom de notre jeunesse, nos adolescents. Puis je voulais vous la présenter parce que, ben un, je la trouve vraiment belle. Puis il faisait vraiment froid ce matin quand je suis venu ici. Mais aussi parce que la jeunesse vend des tuques comme ça, comme celle que vous voyez. Puis chaque tuques qui sont vendues au prix de, je pense, c'est 15 $, il y a une tuque qui va être remise à une personne dans le besoin. Dans le fond, ils vont remettre une tuque pour chaque tuque vendue à l'organisme Itinérance Zéro pour qu'on puisse les remettre à des personnes qui sont dans le besoin. Je sais qu'il en reste, donc je vous invite à en acheter. Vous pouvez aller sur nos réseaux sociaux, notre site Internet, vous allez voir toute l'information là. Puis aussi, cet après-midi, il fait un peu froid aujourd'hui, mais je vous invite à braver le froid quand même, venez jouer avec nous. Puis si tu n'as pas de tuque, mais on en a ici à vendre au coût de 15 $. Donc, je voulais juste vous faire une petite pub pour la jeunesse, parce que je trouvais qu'en même temps que aussi c'était vraiment une belle initiative de pouvoir offrir des tuques à ceux qui en ont besoin présentement. Donc, achetez-en une, puis ça va vous faire plaisir, puis faire plaisir à quelqu'un. Donc, cette semaine, on continue notre série dans le livre des Actes, notre série « Envoyé ». L'Église, c'est vraiment intéressant de voir l'Église primitive, l'Église au tout début de son histoire qui s'est déployée, qui est partie d'une ville à Jérusalem, puis qui s'est déployée partout dans le monde. Et vous savez, depuis, ça fait des années que cette Église existe avec ce désir de faire des disciples, de partager le beau nom de Jésus, que des personnes de partout à Gatineau, mais partout aussi dans la francophonie, puissent connaître le nom de Jésus. On vous a présenté une vision il y a quelques années où on avait ce désir de saturer notre ville de l'Évangile en parole et en action. On a ce désir que chaque personne dans notre ville, que chaque quartier dans notre ville puisse rencontrer, avoir une interaction avec Jésus par l'entremise de frères et sœurs, des chrétiens qui puissent partager le nom de Jésus en parole et en action. On a ce rêve, un rêve de pouvoir voir toute notre ville, mais aussi d'influencer la francophonie, donc des églises de partout au Québec, de partout au Canada et même partout dans le monde qui vont pouvoir, sous notre influence ou seulement sous les ressources qu'on peut leur offrir, qui vont pouvoir partager ce beau nom-là et qu'une multitude de personnes puissent connaître le nom de Jésus et persévérer avec l'Église. Et c'est un rêve qu'on a et parfois, peut-être que tu as l'impression, comme chrétien, que tu rames un peu à contre-courant, que tu as ce rêve de partager l'Évangile, de vivre la foi chrétienne. Mais tu regardes autour de toi, puis tu te rends compte que, en effet, tu es peut-être seul, peut-être le seul chrétien à ton travail, peut-être le seul chrétien à ton école, peut-être la seule famille chrétienne dans ton quartier. Tu as l'impression que de plus en plus, les valeurs qui sont populaires dans la société ne sont pas les valeurs qui sont chères pour toi à cause de Jésus. Ce n'est pas les valeurs qui te sont enseignées dans la parole de Dieu. Peut-être que tu vis des fois du découragement, peut-être même une résignation. Peut-être que tu t'es déjà dit ou tu as déjà pensé, peut-être que tu n'as pas osé le dire, mais peut-être que l'Église ne va jamais progresser à cette époque. L'âge d'or du christianisme est derrière nous, puis ça vaut comme presque plus la peine, ou je vais le faire parce que Jésus me demande de le faire, mais je ne suis pas trop confiant de voir le message de l'Évangile progresser. Si on regarde l'histoire du christianisme au Québec, quelle image ont les Québécois du christianisme? Et en fait, L'image que les Québécois ont du christianisme, c'est que c'est une religion qui est en train de mourir. Les églises se vident, on vend les bâtiments pour faire d'autres choses avec. Il y a un vieux bâtiment d'église à Hull où on peut aller faire de l'escalade. Il y a des bâtiments qui sont maintenant des résidences de personnes âgées. De moins en moins, l'église est considérée. De moins en moins, l'église est prise au sérieux. Et peut-être même que de plus en plus, on va vivre, et peut-être que déjà, les chrétiens vont vivre de l'hostilité, de l'opposition à cause de leur foi. On voit des lois qui sont votées dans les gouvernements qui vont à l'encontre des valeurs chrétiennes. J'ai entendu dernièrement qu'à cause de certains enseignements de la Bible, il y en a qui aimeraient que la Bible soit vue comme une littérature haineuse. Donc, comment vivre avec un rêve de saturer notre ville de l'Évangile, de continuer à propager le message de l'Évangile, de présenter la personne de Jésus au monde entier, mais de vivre dans cette réalité-là où l'Église semble de plus en plus en marge de la société plutôt que comme si la société tournait autour de l'Église. On le sait très bien que sont terminés les jours où le dimanche, on se lève tous collectivement pour aller à l'Église. Mais c'est vraiment encourageant de voir et intéressant de voir comment l'Église primitive, l'Église dans l'histoire, a réagi face à l'opposition, à la persécution. Comment est-ce que l'Église réagit face à une société qui n'est pas trop intéressée à la foi chrétienne et au message de l'Évangile? Qu'est-ce qu'elle a fait? Comment elle a agi? Vers où se tourner dans ces moments de difficulté? Les chrétiens de l'histoire nous enseignent une leçon. Parce que l'Église n'a pas toujours été la religion ou la croyance au centre d'une société comme elle l'a été pendant plusieurs centaines d'années à un moment donné. Mais l'Église a été et même a débuté en étant vraiment en marge de la société. Et j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble ce matin comment est-ce que les chrétiens, les premiers chrétiens, ont réagi face à toute cette persécution, à toute cette opposition venant de l'extérieur de l'Église. Donc, on va lire ensemble dans Actes 12. On va lire un passage dans Actes 12. Mais juste avant d'aller dans Actes 12, j'aimerais ça qu'on prenne un temps pour prier. Seigneur Jésus, tu es avec nous ce matin. Moi, ma prière, Seigneur, pour nous ce matin, c'est que tu puisses alimenter notre désir, notre rêve, que le monde entier puisse te connaître. Un jour, tout genou va fléchir devant toi, Seigneur. Si on croit dans tes promesses, on sait qu'il y a un jour qui va être meilleur, un jour où les gens de toute nation, de partout dans le monde, vont savoir qui tu es. Et on te prie, Seigneur, que tu puisses alimenter ce rêve en nous de te faire connaître aujourd'hui, de continuer, de persévérer à vivre selon tes enseignements et qu'on puisse avoir un impact autour de nous malgré l'opposition et l'indifférence que peut apporter notre foi, Seigneur. Je te prie ce matin qu'on puisse être encouragé si quelqu'un a besoin d'encouragement, qu'on puisse avoir du courage si quelqu'un a besoin du courage, Seigneur, et que tu puisses même nous donner une vision positive de la vie qu'on vit aujourd'hui à cause de toutes tes promesses pour nous. Et c'est ma prière pour l'Église de Sentier ce matin. C'est dans ton nom que je te prie, Jésus. Amen. Donc, on va débuter l'histoire dans Acte 12. Et donc, je vais commencer au verset 1. À cette époque-là, le roi Hérode se mit à maltraiter des membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant la fête des pains sans levain. Après l'avoir fait arrêter et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacun. Il avait l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché avec deux chaînes, dormait entre deux soldats, des sentinelles postées devant la porte gardaient la prison. Donc, on va juste s'arrêter ici pour un instant, puis on va continuer la lecture après. Parce que c'est important de voir que ici, l'Église se retrouve vraiment dans une mauvaise position. On le sait que depuis quelques chapitres maintenant dans le livre des Actes, l'Église a connu la persécution. On a eu Étienne, le premier martyr, il y a eu les apôtres qui se sont fait arrêter par le conseil des grands prêtres juifs. On voit que de plus en plus, il y a de l'hostilité face à l'Église. Mais maintenant, ici, il s'agit de celui qui est en charge, celui qui a l'autorité de cette région, celui qui a la charge de gouverner et qui a le droit d'accuser les criminels et de donner des sentences. C'est lui qui est en place par le gouvernement romain pour juger et diriger le peuple. Hérode, le roi Hérode. Le roi Hérode, c'est le petit-fils d'Hérode le Grand, celui qui était roi à l'époque où Jésus est né, qui a fait tuer tous les bébés à une certaine époque parce par crainte qu'un roi venait de naître en Israël. Le roi Hérode, ce roi Hérode ici dans Actes 12, on apprend qu'il a une bonne relation avec les Juifs. Il veut diriger la région en maintenant des bons liens avec les autorités juives. Alors il veut simplement leur faire plaisir. Et on voit ici que l'apôtre Jacques est le premier apôtre qui va mourir pour sa foi. Donc, imaginez les frères et sœurs de l'Église qui sont consternés par la mort d'un des leurs, qui est certainement qui est seulement mort parce qu'il était un chrétien. Et ici, une fois que Hérode voit que, hey, les Juifs aiment ça, mais je vais leur en donner d'autres. On va continuer. Qu'est-ce que je vais faire? Il va faire arrêter Pierre pour le faire mourir aussi. L'Église se retrouve vraiment dans une situation d'injustice où le gouvernement qui est en place à ce moment-là décide simplement pour plaire aux Juifs de faire du mal à l'Église, d'arrêter l'Église. L'Église se trouve vraiment dans une situation d'injustice, de persécution, d'hostilité. Est-ce que c'est la fin de l'Église? Est-ce que les chrétiens vont arrêter de partager la foi, vont arrêter de se réunir par crainte de se faire arrêter? Est-ce qu'ils vont arrêter de partager l'Évangile? Est-ce que la mission que Dieu leur donne est terminée? Qu'est-ce qui va se passer? Que va-t-il se passer? Une question qu'il faut vraiment se poser dans ces moments. Dans les moments difficiles de nos vies, dans les moments de détresse où toute situation semble perdue. Une question qui est vraiment, on se la pose peut-être de façon intentionnelle ou juste de façon naturelle, mais qui est au contrôle? Qui contrôle vraiment la situation présentement? Laissez-moi vous dire que si l'Église était convaincue que le roi Hérode, à ce moment-là, était plus fort que Dieu, que Jésus qui était leur roi, ils se seraient dispersés, on aurait pu entendre parler d'eux et on ne serait pas ici aujourd'hui. Parce que si ils avaient cru qu'Hérode était en contrôle, s'ils avaient cru qu'Hérode était en contrôle, ils se seraient dispersés. Mais non, l'Église, dans ces moments difficiles, dans ces moments d'injustice, se retourne vers Dieu. Et on voit ici que l'Église va adresser d'ardentes prières pour Pierre. Est-ce qu'elle priait pour que Dieu délivre Pierre? Est-ce qu'elle priait pour que Dieu donne du courage à Pierre de partager l'Évangile jusqu'à sa mort? Est-ce que l'Église partageait seulement, que priait seulement pour que Pierre puisse être courageux dans ces moments ou avoir de la paix dans ces moments difficiles. On ne sait pas exactement la nature de la prière, mais on sait que l'Église s'est retournée vers Dieu, même dans ces moments extrêmement difficiles. On voit ici que Luc, l'auteur de Actes, veut nous montrer que, de toute évidence, sans intervention divine, la situation est perdue pour Pierre. Ça va pas. Pierre ne va pas s'en sortir de cette situation-là. Alors, quand tu es convaincu que une tragédie s'en vient ou qu'une injustice va arriver ou que tu es en plein dedans, là, la tempête de la souffrance et des difficultés de la vie, bien souvent, on peut demander à Dieu d'intervenir. Et on va demander à Dieu d'intervenir positivement en notre faveur. Mais on le sait par expérience, et même la parole nous le montre juste ici avec Jacques, qui juste auparavant est mort. Que Dieu ne va pas toujours répondre selon le désir qu'il y ait une fin positive au moment présent pour nous. Mais l'Église, elle est là, puis sachant tout ça, sachant que ça ne va vraiment pas bien, elle adresse d'ardentes prières parce qu'elle croit que Dieu est au contrôle. Est-ce qu'on vit toujours dans un monde qui n'est pas favorable à l'Évangile? Est-ce que c'est comme ça que tu te sens présentement? Comme on a vu dans l'introduction, il y a aujourd'hui des décisions politiques qui vont contre les enseignements bibliques. Un monde de plus en plus indifférent, en recherche quelconque de vérité. Je parlais avec quelqu'un hier, puis on se disait que, en réalité, aujourd'hui, on trouve nos propres vérités, mais ce qui n'est pas populaire et ce qui n'est pas acceptable de faire ou qui est de moins en moins acceptable, c'est d'essayer de te montrer que ce que je crois être la vérité est la vérité. Si je crois que Dieu existe et que Dieu s'attend de nous, Dieu veut une relation avec nous, mais qu'on n'a pas cette relation-là avec lui à cause qu'on est rebelle à Dieu, à cause qu'on a rejeté Dieu, alors on va être séparé de Dieu et on va vivre éternellement sans Dieu, une souffrance éternelle. Ce message-là, si c'est ma vérité et que j'en parle à personne, vous allez voir, il n'y a pas personne qui va te déranger avec ça. Mais c'est de moins en moins important. De moins en moins populaire ou acceptable de se confronter avec nos vérités. On vit dans un monde qui est de plus en plus défavorable. En fait, je ne sais pas s'il est de plus en plus défavorable, mais il est défavorable au progrès de l'Évangile, parce qu'il l'était vraiment beaucoup à l'époque de l'Église primitive. Et je suis conscient que ce matin, quand on parle de persécution, d'hostilité, d'indifférence, d'opposition à l'Évangile, je suis conscient que chacun d'entre nous, on n'a pas la même perception de la persécution que l'Église peut-être vit présentement ou de l'opposition que l'Église peut vivre présentement. Je sais que chacun d'entre nous, on n'a pas la même perception. Si on évaluait sur une échelle de 1 à 10, un étant une indifférence totale envers le christianisme ou peut-être une opposition désagréable aux valeurs du christianisme, et 10 étant mourir pour notre foi, littéralement se faire mettre à mort comme Jacques ici pour la foi, peut-être que chacun d'entre nous, on se mettrait à des endroits différents sur cette échelle-là. Mais une chose qui est certaine pour chacun d'entre nous et qu'on a tous besoin de faire, c'est de se poser deux questions. La première, comme je viens de le dire, c'est qui est au contrôle et comment est-ce que je dois agir alors que je vis de l'opposition? Comment est-ce que je suis appelé à vivre lorsque je vis de l'opposition? Et c'est vraiment intéressant parce que si on continue à lire l'histoire, on voit déjà que les chrétiens, leur réaction, c'était d'adresser d'ardentes prières à Dieu. Mais si on continue à lire, c'est vraiment intéressant de voir comment l'Église réagit. Au verset 7, on lit « Soudain, un ange du Seigneur survint et une lumière resplendit dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et lui dit « Lève-toi vite, les chaînes tombèrent de ses mains. » Puis l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales. » C'est ce qu'il fit. L'ange lui dit encore « Mets ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit sans savoir ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Ils passèrent la première garde, puis la seconde, et ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. La porte s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Maintenant, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré du pouvoir d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Ce que Luc veut nous enseigner, c'est, pour répondre à la première question, c'est toujours Dieu qui est au contrôle. On peut se poser la question si on vit dans un monde qui est favorable ou non au progrès de l'Évangile, mais peu importe la réponse à cette question-là, ce qui est vraiment important de savoir, c'est que Jésus est favorable au progrès de l'Évangile. Jésus ici va choisir miraculeusement de sauver Pierre. Je vous rappelle, il y avait 4 gardes de 4 soldats. Pierre était attaché à 2 d'entre eux par des chaînes. Les 2 autres soldats surveillaient la porte. La porte, elle, était en fer. Luc voulait vraiment qu'on comprenne que les carottes étaient cuites pour Pierre. Mais soudainement, Jésus a choisi d'intervenir. Jésus délivre facilement Pierre du pouvoir d'Hérode pour démontrer que lui-même est plus puissant que n'importe quel dirigeant, qu'il est au contrôle et qu'il va continuer à faire avancer, à faire progresser l'Évangile. Jésus détient le pouvoir et le contrôle sur nos vies et sur le progrès de l'Évangile. On le voit à maintes reprises dans le livre des Actes jusqu'à maintenant. Dans Actes 1, 41 à 47, alors que Pierre vient de faire son discours à la Pentecôte, il va dire « Ce Jésus que vous avez crucifié. » Il va parler aux Juifs de « Ce Jésus que vous avez crucifié. » Pierre va mettre au défi les Juifs. « Vous êtes coupables, vous êtes responsables d'avoir tué Jésus. Mais moi, j'ai une nouvelle pour vous, Jésus est vivant. » Ce jour-là, 3000 personnes sont venues à l'Évangile. Dans Actes 6, 7, la parole se propageait. Le nombre de disciples augmente après une dispute interne dans l'Église qui aurait pu causer une grosse division. L'Église s'est mise ensemble, ils ont réglé le problème et le livre nous rappelle, nous montre qu'est-ce qui s'est passé après une dispute interne. Non pas une division, mais l'Église a continué à grandir, l'Évangile a continué à se propager. Dans Actes 9, 31, après la persécution et la dispersion de l'Église qui va se disperser, qui va sortir de Jérusalem pour se disperser, on peut lire que l'Église est en paix dans la Judée, la Galilée et la Samarie. L'Église continue de grandir. Et ici, encore une fois, la persécution vient directement des décideurs, des chefs, de celui qui avait l'autorité sur le peuple à ce moment-là. Et ce qu'on apprend à la fin du chapitre 12, verset 24, « Quant à la parole de Dieu, elle se propageait de plus en plus. » Est-ce que vous voyez, Église Le Sentier, que ce que la parole de Dieu veut nous enseigner ici, c'est que Jésus est au contrôle. Jésus va accomplir ses promesses et que si Jésus a le plan de faire faire connaître son nom aux nations, de faire connaître son nom partout dans le monde et de faire progresser l'Évangile, l'Évangile va progresser. Malgré les circonstances, malgré la difficulté, malgré l'opposition, c'est pas le temps de se laisser déranger par ces choses-là parce que notre Sauveur Jésus est encore au contrôle de nos vies, du monde et du progrès de l'Évangile. Je vous ai parlé de ça dernièrement, mais cette parole me revient souvent en tête dans les dernières semaines. Quand un de mes enfants me demande, c'est quand va finir la pandémie, papa? Pourquoi Dieu arrête pas ça? Si Dieu était si puissant, il n'y en aurait même pas de pandémie, il n'y en aurait pas de maladie, ça serait pas grave, il n'y aurait pas de problème. C'est un de mes enfants qui me témoignait un peu sa colère, puis son désarroi, puis son découragement, puis qui remettait en question la bonté de Dieu dans une situation comme ça, puis même la puissance de Dieu. Mais chacun d'entre nous, et peu importe, en ce moment, je parle à toi qui peut-être qui ne crois pas en Jésus, qui n'a pas mis ta foi en Jésus, ce qui est vrai pour chacun d'entre nous, on est égal. On se pose toujours la question, qui est au contrôle de ma vie? Qu'est-ce qui va me donner le plus de chances de réussir? Qu'est-ce qui va me donner le plus de chances d'avoir de la paix, d'avoir de la joie, d'avoir de l'amour, d'avoir de l'accomplissement? On se pose ces questions-là. Qui est-ce qui va gagner à la fin? Parce qu'on veut se ranger du côté des gagnants, du gagnant. Et j'ai vraiment la certitude qu'on va passer toute notre vie à chercher une réponse à cette question. En ce moment, ça peut être la pandémie. On peut trouver plein de réponses puis de questionnements par rapport à cette situation qu'on vit. On peut la raisonner de toutes sortes de manières. Mais une chose qui est certaine, c'est que je sais que mon Dieu a dit qu'un jour, il n'y aurait plus de maladie. Un jour, il n'y aurait plus d'injustice. Un jour, il n'y aurait plus de détresse. Alors, quand mon fils m'a demandé, est-ce que Jésus est assez fort pour arrêter la pandémie? J'ai dit, mais c'est le seul qui a promis qu'il n'y en aurait plus de pandémie. En qui je crois vraiment. En qui je choisis de mettre ma confiance. Parce que je crois que c'est lui qui est au contrôle. Le quand, je ne le sais pas. Pourquoi c'est comme ça, je ne le sais pas. Mais je sais que Jésus est au contrôle. Et qu'un jour, il n'y en aura plus parce qu'il l'a dit, parce qu'il nous l'a annoncé. Vous savez, ce n'est pas nos circonstances qui dictent la destination de nos vies. C'est Jésus. C'est Jésus. Il y a un passage en Matthieu 10 qui dit au verset 28, « Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'homme. Redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. » Dieu est au contrôle de nos vies. Dieu veut être réconcilié avec nous. Il a envoyé son Fils mourir sur la croix pour que les péchés du monde puissent être pardonnés et qu'on puisse avoir la paix avec lui, encore une fois, pour qu'on puisse vivre avec lui, vivre dans la joie, vivre dans l'espérance, d'avoir de l'espoir d'un jour meilleur, que le meilleur est à venir. Et si tu es un enfant de Dieu, si tu es membre de l'Église, tu le sais qu'un jour ça va être meilleur. Tu sais que Dieu t'appelle à persévérer parce qu'un jour, tu vas vivre avec lui pour toujours et dans la joie. Oui, on peut être découragé face à l'indifférence que le monde a face à la foi. On peut être inquiet du rejet des valeurs chrétiennes dans la société. On peut craindre de perdre la liberté de nous exprimer en tant que chrétien. Mais ne perdons pas l'assurance et l'espoir que Jésus est au contrôle, il sait ce qui se passe, et un jour, il n'y aura plus aucun questionnement par rapport à ses inquiétudes. Dans cette histoire, ce qui est vraiment frappant, qui nous rappelle, c'est qu'on ne peut pas arriver et dire, « OK, mais si je prie vraiment avec plein de foi, comme les disciples l'ont fait, Dieu va me délivrer de ma situation. » Je suis pas mal certain que l'Église a adressé d'ardentes prières pour Jacques aussi. Les mêmes chrétiens ont eu les mêmes prières probablement pour Jacques aussi. Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est que Pierre, et ça je ne vais pas le lire, mais vous pouvez lire le reste du chapitre 12, Pierre, une fois qu'il réalise que hey, je n'étais pas en train de rêver, là, je suis dans la rue, je ne suis plus attaché à des soldats, j'ai été délivré miraculeusement, c'est Jésus qui a fait ça, tout de suite il est allé voir les disciples qui priaient pour lui. Et là il va cogner à la porte, puis il y a quelqu'un qui va venir voir, puis elle va être comme, hey, c'est Pierre. Puis là, elle va comme le laisser là, puis elle va aller le dire aux autres. « Hey, Pierre, il est là! » Puis là, personne ne la croit. C'est comme, il essaie de raisonner, bien, si ce n'est pas lui, c'est peut-être un esprit de Pierre. Puis le passage ne nous dit pas clairement si les gens pensaient qu'il était déjà mort, mais il était vraiment dans l'incapacité de croire que Pierre était délivré de prison, par exemple. Mais les gens adressaient d'ardentes prières. Malgré ça, ils gardaient la foi en Dieu. Et puis, Pierre est allé, finalement, ils lui ont ouvert la porte, tout le monde était content. Et Pierre va dire, allez raconter ce qui s'est passé aux frères et aux sœurs qui sont ailleurs. Si Jésus est en contrôle, on veut se poser la question, qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Je veux éteindre le bruit, les distractions. Qu'est-ce que tu demandes de moi? On doit toujours, toujours se poser cette question-là. Parce que toi et moi, on sait que notre penchant naturel face à l'hostilité, l'opposition, à ceux qui se moquent de nous, ceux qui ridiculisent peut-être nos pensées, ou notre penchant naturel, ce n'est pas de tendre la joue à celui qui vient de me frapper. Ce n'est pas d'aimer nos ennemis. Ce n'est pas de nous soumettre à un gouvernement qui ne fait pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas notre penchant naturel, mais c'est pourtant toutes des choses qui sont dites dans la parole que Dieu nous demande. On a constamment besoin de nous tourner vers Dieu et de lui demander comment est-ce qu'il veut qu'on agisse pour continuer à vivre comme il veut qu'on vive. C'est pour ça qu'on a besoin de l'Église, on a besoin de Dieu, on a besoin de nous tourner vers Dieu pour persévérer. Parce que c'est ce que l'Église a fait. L'Église a persévéré dans la foi chrétienne, même si elle ne vit pas dans un monde chrétien. On n'a pas besoin de vivre dans un monde chrétien pour persévérer dans la foi chrétienne. Les disciples se sont tournés vers Dieu et ils se sont mis ensemble dans un moment de détresse. Et c'est ce que j'aimerais qu'on puisse garder ce matin. Les disciples n'avaient pas la certitude que Dieu allait délivrer Pierre. Mais ils ont réagi face à la souffrance, à l'injustice qui était faite à leur endroit en se tournant vers Dieu dans la prière, en demandant constamment de l'aide à Dieu. Quand on croit que Dieu est au contrôle, non seulement malgré les circonstances, mais dans mes circonstances difficiles, quand je crois que Dieu est au contrôle, malgré l'injustice, malgré l'incertitude de la vie, je veux demander à Dieu, qu'est-ce que tu t'attends de moi, Seigneur? Je veux continuer à vivre selon tes enseignements, persévérer dans la foi chrétienne, même si je ne vis pas dans un monde chrétien. Je veux continuer de me tourner vers Dieu et lui obéir et chercher à faire le bien. La souffrance que les chrétiens vivent dans ce passage et que les chrétiens vivent à toute époque depuis ce temps-là démontre notre foi, démontre notre foi qu'on a en Dieu, démontre à quel point on croit que Dieu est au contrôle. La souffrance démontre la dépendance à Dieu dans les moments difficiles. Dieu veut qu'on se tourne vers lui. Ils se sont aussi tournés vers la communauté. Je trouve ça vraiment intéressant qu'on puisse voir, qu'on puisse observer que dans les moments difficiles de l'Église, l'Église est restée ensemble. L'Église n'est pas allée dans les lieux publics là, pour prier ensemble, ou l'Église n'a pas, comme l'Église n'a pas, peut-être qu'il y a des choses que même qu'elle faisait à cette époque-là, qu'elle n'a pas faites dans ces moments-là pour faire exprès, pour vivre la persécution. On va même voir que Pierre n'est pas retourné à Jérusalem après pour dire, regardez, Jésus m'a libéré, vous n'avez pas été capable de me garder dans une prison à sécurité maximale. Non, Pierre est parti, puis il a continué à la mission, il a continué à aller visiter d'autres frères et sœurs, mais on ne sait comme pas trop où est-ce qu'il est allé à ce moment-là, mais on sait qu'il est parti. C'est assez discret. Mais ce que l'Église a choisi de faire et ce que l'Église a fait, c'est qu'on va rester ensemble. On va persévérer dans les relations. Ils ont persévéré ensemble, ils priaient ensemble, ils se sont réjouis ensemble. Et quand Pierre va s'adresser à Dieu, à eux, il va aller leur dire, allez dire à tout le monde ce qui s'est passé aux autres frères et sœurs. Et là, la mission va continuer. Donc, ils se sont tournés vers Dieu. Ils ont resté ensemble, puis ils ont continué la mission. ils ont continué la mission. La parole a continué à se répandre. L'Église continuait de grandir. Dans un monde qui n'est pas favorable à vivre la foi chrétienne, j'ai toujours besoin de me rappeler que Jésus est au contrôle et que je peux continuer à lui obéir en étant une démonstration d'amour de Dieu et de mon prochain. Je vais inviter les musiciens à se joindre à moi. Il y a un documentaire sur l'histoire de 5 missionnaires qui s'appelle « Beyond the Gates of Splendor ». C'est un film documentaire qui raconte l'histoire vraie de 5 missionnaires américains, Jim Elliot, Pete Fleming, Ed McCauley, Nate Saint et Roger Uderian, qui en janvier 1956 ont été transpercés à mort dans la jungle équatorienne par les Indiens Oka, une tribu isolée connue sous le nom de Waodani. Et cette histoire-là est vraiment une histoire remarquable. Parce qu'ici, on parle de 5 missionnaires qui ont tout abandonné, qui ont tout laissé pour aller partager le message de l'Évangile à des gens qui ne l'avaient jamais entendu, pour aller partager l'espoir de Jésus à des gens qui ne l'avaient jamais reçu. Et ces 5 frères-là qui se sont rendus dans cette jungle, au début, l'histoire nous dit qu'ils étaient bien reçus par la communauté. Mais ça n'a pas été long que la tribu qui était là, pour diverses raisons, je pense même que le documentaire l'explique quand même assez bien, ont tué les 5 missionnaires qui étaient avec eux. Ce qui est vraiment incroyable dans cette histoire, qui est touchant à chaque fois que je me rappelle ou que j'écoute ou que je lis quelque chose à propos de cette histoire, c'est que dans le but de démontrer du pardon, les familles de ces missionnaires-là ont décidé de rester, de continuer à servir la tribu, de continuer à leur partager le message de l'Évangile, à les servir et à prendre soin d'eux dans leurs différents besoins. Puis dans une scène du documentaire, Katie et Steve Saint, qui sont les enfants de Nate Saint, qui était mort plus tôt, parlent de leur propre baptême. Savez-vous qui l'a baptisé, qui les a baptisés? Un de ceux qui avait tué leur père. Baptisé par un membre de la tribu qui a tué son père. Kimo, un des participants aux tueries et au baptême, il fait référence au baptême de Steve, du garçon, puis il dit, « Près de la tombe de son père, nous l'avons fait quand Steve était un peu plus âgé. » C'était juste en amont de la rivière. Katie, une des filles qui s'est fait baptiser, dit, « J'étais dans l'eau où le corps de mon père avait été jeté. Et à côté de moi se trouvaient les deux hommes qui, dans leur jeunesse, avaient tué papa. Et tout ce que je savais, c'est que j'aimais vraiment ces deux gars-là. » J'aimerais ça prier pour nous, Église de Sentier, pour que Dieu puisse nous donner cet amour qu'il a mis en nous quand on a goûté à son amour pour nous. Jésus a donné sa vie pour nous alors qu'on était des pécheurs, on était des ennemis de Dieu. Jésus est venu et Jésus est mort pour nous. Il n'a pas regardé ses propres intérêts. Il n'a pas regardé ce qu'il pensait qui était bon pour lui. Non, il a donné sa vie pour moi. Il a donné sa vie pour toi. Et cet amour-là que Dieu nous donne, il veut qu'on la déverse partout, à toute époque. Peu importe si on vit dans un monde qui est favorable ou non à l'Évangile. Dieu va s'occuper de son Église. Dieu va s'occuper de l'histoire. Dieu sait ce qui va se passer. Mais Dieu nous demande de continuer à aimer, de continuer à pardonner, de continuer à agir avec respect et considération pour notre prochain, de continuer à frapper à la porte de nos ennemis pour leur démontrer de l'amour, de ne pas abandonner. Parce que Dieu est au contrôle. Il nous demande de continuer, de persévérer et d'aimer. Alors cette semaine, j'aimerais qu'ensemble on puisse prier Seigneur, notre Église, on s'est donné un rêve de saturer notre ville de l'Évangile en parole et en action, d'influencer toute la francophonie. Quand on va faire cette prière cette semaine, Église Le Sentier, j'aimerais qu'on demande à Dieu la foi pour qu'on croie plus que toute autre chose que Dieu peut faire ça s'il veut. Que Dieu peut nous utiliser. Croyons, parce que Dieu peut le faire, croyons que Dieu va le faire. Prions que Dieu agisse. Que Dieu puisse continuer à te donner du courage dans les moments difficiles. Que Dieu puisse prendre soin de toi, alors qu'en ce moment, peut-être que tu vis une souffrance dans ta vie et que tu puisses te poses la question, un peu comme mon garçon, mais pourquoi Dieu? T'es où Dieu? Pourquoi tu fais ça? Mais que tu puisses persévérer dans la prière et voir que la foi que Dieu nous donne des yeux totalement différents quand on souffre. Nous donne un regard totalement différent. Je t'encourage à rester connecté avec des frères et sœurs parce que parfois, quand on vit des difficultés puis qu'on manque de foi et qu'on a de la difficulté à voir comment Dieu est bon, mais c'est au travers des frères et sœurs qui sont autour de nous qu'on peut goûter à la bonté de Dieu et croire encore une fois que Dieu est puissant et que Dieu est au contrôle. Prions les uns pour les autres cette semaine, Église Le Sentier, avec cette foi que Dieu est au contrôle. Aimons notre prochain comme il nous a aimés. Soyons remplis d'amour et de considération les uns pour les autres. J'aimerais prier pour nous. Seigneur Jésus, merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci parce que tu as donné ta vie pour nous, Seigneur. En tremblant, Seigneur, j'aimerais te demander qu'est-ce que tu demandes de nous pour qu'on puisse donner notre vie pour toi. Comment est-ce qu'on peut t'aimer? Comment est-ce qu'on peut aimer notre prochain qui peut-être pour nous difficile à aimer ou comment aimer nos ennemis, Seigneur? Comment aimer ceux qui peuvent nous faire vivre des difficultés? Tout ce que je sais, Seigneur, c'est que tu nous as promis que tu serais avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et on te demande d'être là, Seigneur, avec nous présentement pour qu'on puisse rester unis dans ton amour, unis pour partager l'Évangile, unis rester ensemble, Seigneur, dans les difficultés, dans parfois nos désaccords ou nos points de vue différents. Mais qu'on puisse avoir un amour que le monde va regarder et va dire c'est incroyable, c'est impossible. J'aimerais qu'on puisse leur répondre, Seigneur, oui, c'est vrai que c'est impossible, mais tout est possible avec Dieu. Seigneur Jésus, change. Si en ce moment, chacun d'entre nous, il y a des endroits dans nos vies où on ne voit pas les situations comme toi tu les vois, montre-nous comment toi tu les vois, Seigneur. Pour qu'on puisse, Seigneur Jésus, être rempli d'amour pour toi et notre prochain. Sature notre ville de l'Évangile, de ton Évangile, ta bonne nouvelle. Merci Jésus pour ton amour. C'est dans ton nom que je te prie. Amen.